Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Cette émission est préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la technique. Alors aujourd'hui, nous en sommes au 17e numéro de notre émission. Notre entretien va porter sur un livre qui vient de paraître sous le titre « La Méditerranée entre amour et haine ». C'est un titre qui résonne bien, à bien des égards, comme une synthèse de l'ère géographique qui constitue le fil conducteur de notre émission. Donc c'est un livre qui est assez intéressant pour la structure même de notre émission. Alors notre invité est donc l'auteur de cet ouvrage. Bonjour Christian Bomberger.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc professeur émérite d'ethnologie dans le laboratoire IDEMEC, ce qui veut dire Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, que vous avez fondé d'ailleurs. Laboratoire qui fait partie de la MMSH, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, à Aix-Marseille Université, et nous sommes donc partenaires d'Aix-Marseille Université et de ses laboratoires. Vous êtes aussi donc membre de l'Institut universitaire de France, et vous avez eu, et vous avez encore d'ailleurs, un emploi du temps bien chargé, puisque vous exercez de nombreuses fonctions administratives et scientifiques dans des institutions universitaires, des musées, diverses revues scientifiques également, en France et à l'étranger. Et vous avez dirigé pendant quelques années l'Institut français de recherche en Iran. Donc vous êtes également iranologue.
Oui, c'est
voilà,
exact.
C'est comme ça qu'on dit. Vos travaux donc, ont porté, bien sûr, sur l'Iran, mais également sur les sociétés méditerranéennes, un petit peu partout, mais particulièrement peut-être au Moyen-Orient, mais également sur Marseille. Vous avez également travaillé sur le football, et puis une recherche très originale qui fera peut-être l'objet d'une autre émission sur la pilosité. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, c'est présenté, cette Méditerranée entre amour et haine. Donc on va essayer d'en faire un petit peu le tour. D'abord, l'idée de partir dans ce travail de synthèse que vous avez parcouru et qui a donné donc naissance à ce livre.
Écoutez, bon, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur le monde méditerranéen, aussi bien en enquêtant au Moyen-Orient ou en Italie ou dans le sud de la France. Et puis, José Lanzini, qui dirige une collection sur la Méditerranée, m'a demandé d'écrire un ouvrage de synthèse sur le thème, ce que j'ai fait volontiers. Alors, évidemment, pourquoi entre amour et haine? À vrai dire, il y a là peut-être deux raisons. D'abord, un clin d'œil à Jacques Berck, qui opposait, quand on parle de la Méditerranée et quand on en scrute l'histoire, deux attitudes opposées, l'amour et la haine, qui, en grec ancien, les deux termes se rapprochent phonétiquement. Eros, c'est l'amour, eris, c'est la haine. Et c'est vrai qu'on a ces deux dimensions en Méditerranée. La deuxième raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cet ouvrage, c'est que, trop souvent, peut-être, on valorise uniquement l'aspect positif, harmonieux des relations entre communautés en Méditerranée. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler sur des choses harmonieuses que sur des conflits. Mais cette réalité conflictuelle, elle existe. Et donc, s'il y a à la fois l'amour de la cuisine, de ses recettes merveilleuses, des phénomènes de cohabitation et de coexistence, de convivenza, il y a aussi cette réalité qui nous assaille quotidiennement de conflits entre minorités religieuses, de ce mépris que l'on peut éprouver pour l'autre aussi. Bref, je crois que c'est une dimension de la vie en Méditerranée que l'on ne peut pas occulter.
Oui, surtout l'actualité nous met assez souvent en face de ces conflits. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'est par rapport donc on va commencer par ce qui se passe bien.
Oui.
La coexistence et les sociabilités, c'est-à-dire le moment où ces sociétés méditerranéennes finalement fonctionnent bien entre elles. Et puis après, ben, on va aller voir peut-être ce qui fonctionne moins bien.
Oui, alors vous savez, c'est vrai qu'on a des exemples extraordinaires de coexistence, de cohabitation. On pense à la Sicile du temps de Roger II au XIIe siècle, et puis de son petit-fils, l'empereur germanique Frédéric II, avec ce Frédéric II qui connaissait un nombre de langues méditerranéennes extraordinaires, et d'autre part ces phénomènes de coexistence qui se sont traduits dans l'architecture et dans cette architecture arabo-normande. On pourrait aussi évoquer, bien sûr, l'Andalousie au temps du califat Omeyyade, avec ces phénomènes de rapprochement entre cultures. Et donc, c'était encore Jacques Berck qui parlait de l'Andalousie, d'où nous portons toujours le souvenir et le souci de reviviscence, bien sûr. Et mais donc, on peut penser aussi à ces phénomènes qui existent entre communautés voisines. Je pense à ce qui se passe en temps normal, c'est-à-dire en temps qui n'est pas un temps de conflit et de guerre, entre les communautés maronites et les communautés chiites au Liban, où souvent ce sont par exemple au moment du début du jeûne du carême, des musulmans qui viennent égorger l'agneau sacrificiel pour s'assurer que précisément il est halal, qu'on va pouvoir le consommer ensemble. Et donc cette participation au rituel des uns et des autres avec cette offrande de confiserie et de mets divers lors des fêtes principales ou des cérémonies principales de ses voisins. Je pense aussi à ce qui existait en Bosnie-Herzégovine, à la Slava, où les Serbes allaient offrir aux Bosniaques musulmans des mets, des confiseries au moment de leur fête importante, et le phénomène inverse était aussi vrai. Et c'est vrai que dans cette zone des Balkans, il y a un concept qui est important, c'est celui de komšiluk, de voisinage. Komšila, c'est le voisin, et donc ces phénomènes de coexistence pacifique, bienheureuse, qui ont existé. Alors, on peut évidemment trouver tout cela, toute cette coexistence à travers des phénomènes aussi bien dans l'architecture que dans ces villes-ports, ces villes-mondes, ces cités-mondes qui ont été des lieux d'un cosmopolitisme formidable, que ça a été aussi bien Smyrne, Thessalonique, Marseille, Alger, etc. On a là Livourne, on a là des exemples véritablement de cohabitation. Et donc, on a eu aussi ces personnages étonnants. Je pense aux Drogman du temps de l'Empire ottoman, avec ces Drogman étaient précisément donc ces interprètes dans les ambassades qui parlaient un nombre de langues extraordinaires et qui permettaient cette coexistence de populations diverses, donc avec un cosmopolitisme méditerranéen qui a existé, qui est lié aussi à des choses moins gaies, qui sont les mobilités, des mobilités par le travail, des mobilités par parfois des phénomènes de déportation, d'exode d'exil tout à fait dramatique. Bon, là, je pense par exemple aux Arméniens et à ces phénomènes, si vous voulez, de mobilité contrainte. Et on a eu aussi, pour célébrer cette fraternité méditerranéenne, des tas d'auteurs, et surtout dans les années 1930, un mouvement tout à fait étincelant de méditerranéisme vantant la fraternité méditerranéenne. Ça a été les Cahiers de la Barbarie à Tunis avec Armand Guibert et Jean Amrouche. Ça a été Rivage d'Albert Camus à Alger. Et ça a été Agedal d'Henri Bosco à Rabat. Donc, et on a, alors, il y a de grands personnages qui ont chanté cette Méditerranée. Je pense à Gabriel Audizio dans sa Jeunesse de la Méditerranée, ou encore dans Le sel de la mer, ou de la terre, je ne me rappelle plus exactement, où il vante précisément cette alliance entre les différentes cultures méditerranéennes. C'est là quelque chose, évidemment, qui mérite d'être noté. Il y a eu tous ces mouvements qui ont chanté la Méditerranée, une Méditerranée des échanges, une Méditerranée du cosmopolitisme. Ça commence avec les Saint-Simoniens, avec Michel Chevalier au XIXe siècle. Ça se continue à travers toute une série d'auteurs et à travers aussi, à Marseille, les Cahiers du Sud de Jean Ballard, qui ont été quelque chose qui a valorisé cette Méditerranée des échanges et de la proximité entre société et culture.
Oui, d'ailleurs, c'est Camus qui parlait quasiment d'une citoyenneté méditerranéenne qu'il opposait à Rome.
Oui, tout à fait, parce que vous savez, le thème de Rome est un thème très polémique. Dans les années 1930, il y a tout un courant, et on le sait bien dans notre région, qui valorisait la Méditerranée, mais la Méditerranée occidentale, nord-occidentale. Et donc, il y a eu toute une série d'essais pour vanter cette latinité. Et ces chantres de la fraternité méditerranéenne dont je parlais, aussi bien Odizio que Camus, pour eux, ça n'est pas une Méditerranée latine, une Méditerranée romaine, mais c'est une Méditerranée qui englobe les deux rives et qui va d'est en ouest.
Oui, c'est ça. C'est opposé, d'ailleurs, totalement à la Méditerranée romaine.
Oui, c'est pas la Méditerranée maurassienne.
Si voilà, exactement, c'est ça. C'est ce que je voulais vous faire dire. Et donc, on a dans cette coexistence quand même un élément religieux qui est très fort, j'ai l'impression, dans cette coexistence, dans cette sociabilité. Les religions jouent un rôle important, au contraire de ce qu'on pourrait penser.
Voilà, les religions jouent un rôle important avec l'idée d'une spiritualité commune.
Voilà.
Or, ces religions, en définitive, ça on y reviendra ensuite, sont plutôt des barrages que des ressorts de coexistence, de fraternité. Mais l'idée, c'est cette spiritualité commune que l'on a en vantant des personnages. Je pense par exemple à quelqu'un comme Raymond Lull au XIIIe siècle, qui est cet auteur qui valorise précisément les trois traditions, les trois religions du livre, et qui ne veut pas, dans un de ses livres, que les représentants de ces religions choisissent entre l'une ou l'autre, parce que pour lui, c'est une même visée vers l'au-delà et une même expérience spirituelle.
Oui, donc un véritable courant d'unification un petit peu des...
Voilà, c'est ça. Il y a ce courant méditerranéiste qui s'oppose à ce que nous voyons aujourd'hui, qui est évidemment pas marqué par cette volonté de fraternité méditerranéenne.
Oui, on peut pas dire d'ailleurs, hein, que pour l'instant, l'actualité nous démontre une très grande fraternité. Je vais vous faire écouter une musique par Georges Moustaki, qui s'appelle En Méditerranée, et qui est assez intéressante parce que c'est un peu une synthèse, elle aussi. Vous allez voir. Écoutons ça.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives, et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Voilà une belle synthèse.
Ah oui, tout à fait.
Hein, qui est vraiment un reflet de ce que l'on peut voir en Méditerranée. Alors, la personne même de Georges Moustaki est-elle aussi une synthèse? Parce que Georges Moustaki, il est né à Alexandrie, donc il est né en Égypte, de parents qui sont juifs grecs de langue judéo-italienne, originaire de l'île de Corfou. Et il a grandi dans un environnement multiculturel, juif, grec, turc, italien, arabe, français. Et il s'est passionné pour la littérature française. Et en fait, il est devenu auteur-compositeur en français. Donc, il est vraiment cette synthèse du monde, oui, du monde méditerranéen, ce personnage, ce poète extraordinaire. Alors, donc, coexistence et sociabilité, ça signifie peut-être qu'on est là avec des sociétés qui ont des caractéristiques communes.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on peut égrener, si vous voulez, les caractères communs de ces sociétés. Il y a évidemment des choses qui frappent beaucoup. C'est d'une part, et qui sont devenues proverbiales, pour ainsi dire, c'est l'hospitalité méditerranéenne. Alors, elle est évidemment combattue par les phénomènes touristiques, ce qui fait que les Méditerranéens ne peuvent pas accueillir tous les touristes qui déferlent sur leurs îles ou sur leurs rives au fil des étés ou des saisons. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus fondamentales comme l'honneur. C'est vrai qu'il y a un sentiment de l'honneur qui est particulièrement valorisé dans les sociétés méditerranéennes. Qu'est-ce que c'est que cet honneur ? Eh ben, c'est à la fois quelque chose qui touche à la virilité et d'autre part également qui touche au statut des femmes qui doit être protégée contre les violences d'autrui, contre, et qui doit manifester que l'honneur de la famille est porté très haut. Et très souvent, d'ailleurs, cet honneur masculin repose sur les femmes qui doivent manifester cette chasteté qui est caractéristique. Bon, c'est peut-être un trait un peu archaïque, mais qui est caractéristique des valeurs des sociétés méditerranéennes dans le temps long. Il y a ça, il y a aussi un trait qui a été longuement analysé par les ethnologues, c'est une certaine forme d'endogamie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le mariage au plus proche, si possible à l'intérieur de la famille, ce qui était vrai dans la Méditerranée antique occidentale et ce qui est toujours en partie vrai sur la rive sud et sur la rive orientale, avec cette prédilection pour le mariage au plus proche, si possible avec une cousine parallèle patrilinéaire. Bon, là, je vais pas vous embêter avec le vocabulaire de l'ethnologue, c'est-à-dire avec la fille du frère de mon père. Oui. Et donc, à ce moment-là, il y a véritablement cet idéal de vivre entre soi qui est caractéristique de ces sociétés par rapport aux sociétés qui ont été étudiées, par exemple, par Claude Lévi-Strauss quand il s'intéressait aux sociétés amérindiennes, où il faut au contraire aller chercher son épouse ailleurs, chez les autres, pour entretenir des relations avec les autres. Là, il y a plutôt cette idée d'un lignage, d'une lignée qui doit être monolithique, pour ainsi dire, sans trop de mariages à l'extérieur. Et donc, un autre trait qui est frappant et qui a tendance aujourd'hui à disparaître, c'est cette ségrégation entre les sexes. Si vous prenez une place de village ou de ville italienne à l'heure de l'apéritif, vous verrez surtout des hommes qui sont en train de discuter, peu de femmes qui sont à la maison, avec donc cette séparation de l'espace masculin et de l'espace féminin, et avec certes un certain nombre parfois de rencontres dans les espaces publics, mais la règle, c'est que l'espace public est un espace essentiellement masculin. Et puis, il y a des phénomènes que l'on ressent et que l'on perçoit quand on étudie la vie municipale ou dans ces régions de Méditerranée, c'est une certaine forme de clientélisme. Un clientélisme qui fait que pour me rattacher à l'État, bah je passe par un notable du lieu qui va être l'intermédiaire entre moi et ces structures lointaines, administratives. Et ce qui est très frappant, c'est que ce clientélisme, il existe aussi en matière de religion, c'est-à-dire que ce sont des sociétés où l'on prie les saints, les intermédiaires, donc là aussi, entre soi-même et Dieu. Et ces saints qui sont, à vrai dire, qui sont bannis de l'islam, mais dans l'islam populaire, qui ont une présence extrêmement forte également. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est lié à l'honneur dont nous parlions, ce sont ces pratiques de vengeance. Alors, ça peut prendre des formes diverses, ça peut être la vendetta corse, ça peut être le regba kabyle, ça peut être le djak albanais, etc. Donc, ces phénomènes de vengeance, si l'honneur de ma famille, de mon lignage ou mon honneur personnel ont été atteints par l'autre. Et alors, à ce moment-là, il y a des procédures de conciliation qui arrivent. Alors, on voit que c'est interminable, par exemple, en Albanie. Il suffit de relire Avril brisé d'Ismaël Kadare pour s'en apercevoir. Ça peut être parfois médié et clôturé par l'intervention de religieux. C'est le cas, par exemple, au Maroc, dans le Rif. Ça peut être au contraire des parlanti comme en Corse qui permettent ces rapprochements entre groupes qui se détestent et qui veulent se venger. Et puis donc ça peut aussi parfois aboutir à un mariage entre deux lignées opposées et à ce moment-là donc c'est un moyen de solution aussi au moins temporaire de l'antagonisme entre ces deux fractions. Alors évidemment il y a ça, il y a aussi des formes que l'on peut reconnaître ici et là dans les dévotions. Des dévotions que j'appelle dolorisantes, où très souvent, on va avoir une sorte de culte des martyrs. Alors c'est très vrai, par exemple, dans le Liban chiite. C'est vrai aussi quand on prend les semaines saintes en Italie du Sud ou en Espagne, où il peut y avoir ces phénomènes aussi de flagellation que l'on connaît dans le monde chiite et que l'on connaît aussi parfois dans le monde chrétien, parfois je dis parfois, mais avec d'ailleurs ces pièces de théâtre qui existent aussi bien en Méditerranée occidentale ou qui existaient en Méditerranée occidentale qu'en Méditerranée orientale, qui étaient les mystères que l'on connaissait au Moyen-Âge et qui reproduisaient la passion du Christ, ou le tasier que l'on connaît au Liban, qui reproduit la passion du troisième imam des chiites, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et qui est là aussi cette forme de théâtralisation de cette passion. Alors, ces dévotions dolorisantes pour le martyr, on peut l'avoir aussi sous sa forme laïque, bien évidemment. On pense au culte des héros de la guerre d'Algérie, en Algérie même, avec ce martyrisme qui est aussi une constante des formes de cultuelles et rituelles en Méditerranée, avec évidemment des variantes différentes, plus ou moins laïques, plus ou moins religieuses, selon les contextes.
Enfin, c'est quand même essentiellement religieux, on y revient, quoi.
Alors, évidemment, la religion est quelque chose, si vous voulez, parce que...
De très prégnant,
et je ne suis pas sûr que son importance soit prise à sa juste mesure par tous les analystes. Dans la mesure où on peut se proclamer athée, mais en définitive, la religion s'insinue par tous les pores d'une société. Et même si on se proclame à l'âge adulte athée, rejetant toutes les croyances, on a quand même, sur le plan des habitudes alimentaires, sur le plan de la sociabilité, sur la manière d'élever ses enfants, sur les valeurs que l'on porte, eh bien, on est toujours conditionné par cette religion qui a été consubstantielle à notre éducation. Je pense à cette amie communiste algérienne rejetant tous les dogmes et toutes les formes de religiosité et me disant « Ah oui, d'accord, mais je ne pourrai jamais manger de porc. »
Oui, on a donc des sociétés qui sont, ce qui fait un peu leurs caractéristiques communes, qui sont quand même très impliquées dans certains principes religieux, des sociétés qui sont très fermées, des espèces de citadelles, hein, des micro-citadelles dans les lignées qui se défendent par toutes ces, par cette violence dès qu'on porte atteinte de la vendetta, etc., dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, ce martyrisme, c'est vous qui utilisez ce terme, ce martyrisme qu'on retrouve donc dans toutes les sociétés, en particulier quand on a des exemples actuels, dans l'actualité, de ce martyrisme. Hélas, avec ce que l'on connaît dans les attentats en Europe et ailleurs, d'ailleurs, hein, c'est la même chose. On va faire une deuxième pause musicale. Là aussi, c'est également quelqu'un qui est une synthèse, là aussi, de la Méditerranée. C'est Herbert Pagani qui a chanté une chanson qui s'appelle « Ma Méditerranée ».
J'étais bleu, j'étais olive. Entre nous deux, ce fut l'amour. Entre nous deux, ce fut l'amour. Tu m'as bercé de tes silences. Je t'appelais Mémé d'Azur. Sur les playbacks de mon enfance, je chante tes éclaboussures. Ô toi, grand-mère de toutes les mères, baiser de sel sur mes blessures, ô Méditerranée. Mouchoir tout bleu parmi les lauriers roses, bleu comme une échymose après un long baiser. Je te connais par cœur, ma Méditerranée. T'es comme un livre ouvert, y'a qu'à tourner les plages. Et dans ces transistors que sont tes coquillages, tu chantes le Coran, la Bible et l'Odyssée. J'entends tes troubadours, Moïse et puis Jésus et Mahomet. Chacun à sa manière était vedette, et tous à leur façon chantaient l'amour. Et tous avaient leurs fans qui pour se voir premier au hit parade se sont payés des guerres et des croisades. Sur terre, sur mer, de Troie jusqu'au Golan, ma Méditerranée, on ferme tes édènes. La guerre du pétrole va faire rougir tes plages. Nous la suivrons bloquée dans nos embouteillages, à moins qu'on crève en boîte au détour d'un week-end. Est-ce le sable ou la saumure, ou ton climat si tempéré, qui fait pousser les dictatures d'un bois plus dur que l'olivier et fait fleurir des barbelés comme des produits de la nature? Ô Méditerranée, ma Méditerranée, t'es comme un livre ouvert, y'a qu'à tourner les plages. Mais c'est le même programme à tous tes coquillages, de conneries présente en conneries passées. avec l'or noir et les bouts rouges. Ils t'empoisonnent tes petits. T'as beau pleurer, personne ne bouge. Et toi, tu meurs dans ton grand lit. Et toi, tu meurs dans ton grand lit.
Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzine, vous écoutez l'émission Mare Nostrum, consacrée donc à la Méditerranée intramuréenne avec Christian Bromberger. Alors Christian Bromberger, on a vu jusque-là les roses, les douceurs en quelque sorte.
Oui.
On va passer à l'iris.
À l'iris.
Voilà, l'iris, donc les oppositions pour utiliser un langage assez châtié, puis ça va jusqu'à la guerre. Alors, il y a, à côté de ces caractéristiques communes, à côté de cette coexistence, de cette sociabilité, des réalités très conflictuelles.
Il y a des réalités très conflictuelles qui se sont durcies au XXe siècle, quand on prend ces villes-mondes, ces cités cosmopolites dont nous parlions tout à l'heure, qui étaient des modèles de coexistence. Là, au contraire, on voit comment ce qui domine, ce sont les nationalismes intransigeants, les raidissements ethno-religieux qui caractérisent la période contemporaine. Et c'est vrai que ce qui frappe aussi, c'est cette haine de l'autre qui va jusqu'à détruire ces monuments religieux. Je pense là à ce qui s'est passé dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie.
Oui.
Et également ce qui va jusqu'à détruire, et là c'est un thème important dans les Balkans, le pont. Le pont qui est un peu le symbole de cette réunion de communautés diverses, on peut traverser le pont, on peut aller chez l'un et chez l'autre. Là au contraire, quand on voit ce qui s'est passé à Mostar, eh ben, on a fait sauter le pont, ce qui fait qu'entre les Croates et les musulmans, eh bien, la césure s'est encore accentuée, plutôt que le rapprochement esquissé.
Ah oui, c'est une image très forte.
C'est une image forte. Et c'est vrai que le pont est un thème important dans la littérature des Balkans. Je pense aussi bien à Ivo Andrić, le pont sur la Drina, ou à Ismail Kadare, le pont aux Trois Arches. Et alors, je voudrais vous citer pour manifester à quel point cette haine peut être quelque chose de fort et qui n'est pas souvent aussi bien dit que ne le dit Ivo Andrić, précisément dans sa lettre de 1920 de Sarajevo. Voilà ce qu'il écrit. « Quant à Sarajevo, on reste jusqu'au matin tout éveillé dans son lit, on entend tous les bruits de la nuit. Pesamment et implacablement, l'horloge de la cathédrale catholique sonne 2 heures. Une minute plus tard, 75 secondes exactement, j'ai compté. Sur un timbre un peu plus faible mais pénétrant, l'horloge de la cathédrale orthodoxe sonne ses 2 heures. Un peu après, la tour de l'horloge de la mosquée du Bey sonne à son tour sur un timbre rauque et lointain. Elle sonne 11 heures, 11 heures turques spectrales, conformément aux contes étranges de pays situés à l'autre bout du monde. Les Juifs n'ont pas d'horloge qui sonne, et seul le Dieu cruel sait quelle heure il est pour eux à ce moment-là. Une heure qui varie selon qu'ils sont séfarades ou ashkénazes. Ainsi, même la nuit, quand tout dort, dans le décompte des heures creuses du sommeil, veille la différence qui divise les gens endormis. Ces gens qui, dès le réveil, se réjouissent et souffrent, mangent ou jeûnent conformément à 4 calendriers différents et opposés les uns aux autres, et qui adressent leurs prières au même ciel, dans 4 langues d'église différentes. Cette disparité, tantôt de façon visible et ouvertement, tantôt de manière invisible et sournoise, ressemble toujours à la haine et se confond parfois tout à fait avec elle. On a là le revers hein, de cette harmonie dont nous parlions précédemment. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à Sarajevo illustre cette tension entre communautés et cette confrontation agressive qui est avivée aujourd'hui en Méditerranée par le conflit israélo-arabe et qui est ces conflits, c'est un peu l'horizon contemporain du monde méditerranéen. Ce qui me semble fort dans cette opposition, c'est qu'elle n'aboutit pas toujours à des conflits, mais elle se solde toujours par le séparatisme. Le séparatisme dont on voit les effets essentiellement dans la pratique des mariages. Il s'agit de mariages à l'intérieur de la même communauté religieuse. Je ne vais pas vous donner des chiffres qui seraient un peu trop pesants, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on parle de Méditerranée, on a tendance à parler parfois de façon exaltée et optimiste de métissage. Or, à mon sens, il y a au contraire une logique anti-métisse en Méditerranée, qui est sans doute en train de disparaître et de s'atténuer, en tout cas, et on ne peut que s'en féliciter. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'on ne va pas donner une fille à quelqu'un qui appartient à l'autre religion. Alors là, quand on prend les statistiques des mariages, c'est très frappant. Quand on voit même en France comment ça se produit, on a des enquêtes récentes. Les hommes épousent, par exemple, un jeune maghrébin ou d'origine maghrébine va épouser à 50%, excusez-moi de le réduire à ce point, un pourcentage, va épouser à 50% une Française née de parents français. Mais en ce qui concerne les filles, alors là, le chiffre va être beaucoup plus bas. Et en définitive, peut-être 25 ou 28% des filles maghrébines vont, d'origine maghrébine, vont épouser un Français né de parents français. Pourquoi ? Parce que la religion se transmet chez les musulmans comme chez les chrétiens par le père. Et donc, si une fille va épouser un chrétien sociologique au moins, ou, et qui va transmettre sa religion à ses enfants, à ce moment-là, évidemment, ses enfants ne seront pas musulmans. Ce qui fait que la condition éventuelle pour que ce mariage ait lieu, c'est que l'homme se convertisse à la religion musulmane avant de se marier, pour qu'à ce moment-là, le statut des enfants, qui lui n'est pas négociable. Alors évidemment, c'est un problème que nous avons connu aussi très fortement dans nos sociétés. Pensons, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, au mariage entre catholiques et protestants. Ça n'était pas simple, ça créait des drames dans les familles. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ce qui fait d'ailleurs que quand on voit comment les jeunes filles musulmanes se comportent, c'est très intéressant sur le plan statistique, parce que très souvent, leur âge au mariage est plus tardif, dans la mesure où elles veulent éviter un conflit familial. Elles essaient de combiner choix individuels et d'autre part les normes qui leur sont transmises par la famille, et pour avoir ce que certains analystes appellent un mariage halal. Donc un mariage qui satisfasse tout le monde, à la fois. Et puis aussi, très souvent, elles ont un célibat prolongé. Et donc là, il y a toute une série d'études qui nous montrent à quel point le phénomène religieux demeure un phénomène fort, y compris dans une société comme la nôtre, avec un séparatisme qui continue d'exister. Alors évidemment, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui va durer mille ans. Sans doute, tout cela s'aplanit, s'atténue et on va vers plus de compréhension. Mais je ne suis pas sûr qu'on aille toujours vers plus de compréhension, parce que on est à une époque assez paradoxale où, en définitive, ce que j'appelle les identités substantielles, c'est-à-dire les manières de vivre des gens, sont de plus en plus conformes les unes aux autres, et en même temps où le sentiment d'appartenance, lui, est très fort. Donc il y a un peu cette contradiction entre les deux, et souvent le sentiment d'appartenance prend le pas sur des modes de vie qui sont plus communs aux uns et aux autres.
Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui se renforce en même temps.
C'est quelque chose, oui, qui se renforce. Le sentiment d'appartenance, oui, se renforce, si vous voulez. Moi, ça me frappe dans tout, entre musulmans et puis chrétiens. Quand on voit, par exemple, la hausse du taux de ramadanisant, si j'ose dire, donc qui pratique le ramadan, c'est quelque chose de fort. Quand on voit aussi le voile, enfin on appelle ça le voile, mais disons le fichu islamique chez les femmes ou chez les jeunes filles à partir de l'âge des obligations religieuses, là aussi il y a quelque chose qui se renforce, si vous voulez, et qui marque une fois de plus la différence. Alors évidemment, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un petit peu, c'est ce phénomène des différences sur lequel se cristallisent bien des conflits, bien des polémiques, et qui raidissent les appartenances, alors qu'au fond, me semble-t-il, il faudrait revenir sur la manière dont se sont constituées ces différences. Alors ces différences, on les connaît, elles sont fortes en matière d'alimentation. Mais si on y réfléchit un peu, et si on réfléchit à l'ancrage religieux de ces différenciations, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sorte de triangle avec les chrétiens, les musulmans et les juifs qui s'opposent chacun terme à terme. C'est-à-dire que les juifs et les musulmans prohibent le porc, mais les juifs peuvent boire de l'alcool à certaines conditions. Le christianisme, lui, a aboli les interdits. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Marc. C'est aussi ce qui est exprimé dans les Actes des apôtres de façon intéressante quand tout à coup Pierre, Saint-Pierre donc, est pris par la faim et tout à coup il est pris d'une vision. Et alors tous ses amis autour, on se demande ce qui se passe, il est pris d'une vision et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit descendre du ciel une grande toile sur laquelle sont tous les animaux et toutes les plantes du monde. Et il entend une voix qui lui dit « Tue et mange ». Donc c'est un petit peu la levée de tous les interdits alimentaires qui sont si bien spécifiés dans le Lévitique de façon extrêmement normative. Et donc là, on a cette opposition entre christianisme, judaïsme et islam à travers l'alimentation. On a aussi cette différence. Par exemple, quand on prend le thème du sang, c'est quelque chose, on le voit, d'extrêmement important pour l'alimentation halal. Il faut que le sang ait coulé, etc. Et rien n'est pire quand on évoque notre nourriture, la nourriture chrétienne, entre guillemets, à un musulman qu'un boudin sanguinolent. C'est effroyable. Et ça suscite des haut-le-cœur, et donc c'est quelque chose de prohibé. Et le statut du sang que l'on ingère, alors on voit le statut du sang aussi à l'Église, dans la communion, le sang, le Christ transformant le vin en sang, etc. Donc cette valorisation du sang dans la tradition chrétienne, et au contraire à l'opposé, quelque chose qui est tout à fait néfaste, qui est voué au djnoun, c'est-à-dire au mauvais esprit, dans la tradition musulmane. Et d'autre part, dans la tradition juive, il n'y a pas cette valorisation du sang, bien au contraire. Donc là aussi, on a une différence, et c'est ce que j'appelle personnellement des différences complémentaires. C'est-à-dire qu'en définitive, tout ça a été créé, à mon sens, pour se différencier de l'autre, et non pas par ordre divin, parce que je pense pas que Dieu se soit préoccupé véritablement de savoir s'il y avait du sang ou pas dans les aliments. Donc, il y a ça, on trouverait ça aussi dans les apparences, avec, on parlait du fichu islamique, et au contraire de la chevelure qui est montrée ou qui peut être montrée dans la tradition chrétienne. Il faudra aussi parler de ce qui se passe dans la tradition juive avec non pas le fichu, mais avec chez les plus traditionalistes, les plus orthodoxes, au moment du mariage, la suppression de la chevelure, une perruque à partir du XVIIIe siècle, ou un bandeau en tout cas pour cacher le crâne. Et donc on a là aussi des traditions en matière de pilosité, de capillarité, des traditions différentes. On le voit aussi très nettement quand on oppose les clercs en islam, enfin si on peut parler de clercs en islam, et d'autre part les clercs dans le monde chrétien. Avec, vous savez qu'en dehors des moines franciscains et puis des missionnaires au XIXe siècle, la barbe est prohibée dans le christianisme, les clercs sont imberbes. Et donc, au contraire, on a cette présence de la barbe dans le monde musulman, donc avec cette opposition aussi, et dans le monde juif aussi, la barbe qui est quelque chose de valorisé. Donc on a là aussi un système d'opposition entre traditions. Alors, tout ça, je pourrais aussi donner d'autres exemples de ce système de différences complémentaires en évoquant les images. Vous voyez comment dans le monde chrétien il y a une valorisation de l'icône, et donc même si au tout début il y avait une sorte d'iconophobie, mais c'est vrai que c'est une religion iconophile, et celui qui a le mieux marqué dans le contemporain cette opposition, c'est un grand anthropologue qui est Jack Goody, qui était à Chypre dans les années 40, et qui nous dit, mais c'est incroyable de voir les réactions. À ce moment-là, il n'y avait pas eu encore le partage en deux entités, ce qui fait partie de ces problèmes méditerranéen interminable, hein, l'histoire de Chypre comme l'histoire d'Israël, comme enfin bref de toutes ces zones qui sont conflictuelles par une cohabitation délicate entre communautés différentes. Et puis qui se prennent du territoire, ça c'est un autre aspect aussi. Enfin bon, je reviens à Chypre et aux images, et Goudy a quelques remarques tout à fait pertinentes sur la manière dont les musulmans de Chypre sont atterrés de voir ces orthodoxes embrasser des icônes à longueur de journée et se prosterner devant des icônes, ce qui est pour eux évidemment quelque chose de tout à fait sacrilège et qui est incompréhensible. Et donc on a là quelque chose qui est tout à fait frappant, qu'on a connu aussi dans l'opposition entre catholiques et protestants, d'ailleurs les protestants étant iconophobes, les catholiques iconophiles, et d'ailleurs Élisabeth Ier faisait dire au sultan d'Istanbul qu'ils étaient d'accord sur ce point, au moins. Donc, il y a ces différences qui sont érigées en casus belli quand les circonstances de cohabitation ne sont plus quand il y a un dérèglement des relations sociales entre ces communautés. Et c'est ce que j'appelle à la suite de James Rosnow des cascades. Comment ça naît, en définitive, ces affrontements qui peuvent être violents entre communautés? Ça naît très souvent de conflits qui viennent de leaders populistes ou bien d'opposition entre États, mais il faut que ça recoupe de micro-désaccords à l'échelle de quartiers, de villes. Tu as vu, celui-là, il mange du jambon, celui-là, il n'est pas comme nous, etc. Et du jour au lendemain, le copain de bistrot ou de travail peut devenir au contraire un ennemi avec qui je vais guerroyer et que je vais aller jusqu'à martyriser, tuer ou avoir des relations extrêmement conflictuelles. Et donc, ça c'est... Et à ce moment-là, bien évidemment... Ces histoires de fichus, ces histoires de d'alimentation différente, etc., ressurgissent comme étant quelque chose qui prouve bien l'altérité fondamentale de cet autre que l'on doit détruire parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, il y a là un phénomène de conjonction entre, disons, la grande politique et la micropolitique des quartiers et des rues avec ces rumeurs. Et j'ai une étudiante là qui fait une thèse sur la Bosnie actuellement. J'espère qu'elle va la terminer d'ailleurs parce que ça dure depuis assez longtemps. Et bon, ce qu'elle me montre très bien, c'est que bon bah il y a des gens qui lui disent mais écoutez ces histoires de jambon, on n'en entendait pas parler jusque là. Maintenant c'est devenu un phénomène très très important. Alors que jusque les gens prétextent des maux d'estomac pour refuser le jambon, alors que jusque là pendant 20 ans on n'avait jamais entendu parler des maux d'estomac provoqués par le jambon. Donc il y a là cette possibilité, à travers ces différences complémentaires, d'en faire des arguments de conflit et de guerre.
Oui, c'est intéressant, cette analyse justement des conflits en Méditerranée qui partent, et ces micro-problèmes qui se connectent à un moment donné, oui, avec des problèmes plus généraux, oui, et qui vont donner des conflits majeurs,
tout à fait,
au bout du compte.
Tout
donc
à
ce
fait.
Phénomène de cascade qui est quand même très, très, très intéressant. On va passer une petite musique, cette fois-ci une chanson italienne qui s'appelle Solo Andata, et qui parle plus précisément des migrants, donc la traduction de Solo Andata, c'est aller simple.
Oui.
Et c'est une chanson qui a été dont la musique a été faite sur des paroles d'Eri De Luca. Mm-hmm.
Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera, lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra.
Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco.
Nessuna polizia può farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, figli che non fate, le nostre vite, i vostri libri di avventura.
portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino,
l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso.
Qualunque distanza arriveremo a milioni di passi, noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso, spaliamo neve, pettiniamo prati,
battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto, noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo,
noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il polline, polvere nel vento di stasera.
Uno di noi a nome di tutti ha detto: non vi sbarazzerete di me.
Va bene, muoio, ma in tre giorni
resuscito e ritorno.
Al Mediterraneo, migratori di Africa e di Oriente affondano nel cavo delle onde. Il pacco dei semi portati da casa si sparge tra le alghe e i capelli. La terraferma Italia è terra chiusa. Li lasciamo annegare per negare.
Donc des réalités conflictuelle, voire très conflictuelle. Et donc, la question qui reste quand même, c'est de savoir comment dépasser ces différences, quels sont les enjeux dans cette Méditerranée actuelle par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur cette Méditerranée intramontréenne. Qu'est-ce qui va l'emporter? Quel compromis on va pouvoir trouver dans cette Méditerranée, dans ces sociétés méditerranéennes?
Alors écoutez, je pense qu'il y a peut-être deux voies à suivre. La première, c'est de se dire que chez chaque individu, il y a des comportements qui sont souvent contradictoires, qui sont parfois extrêmement virulents par rapport à sa propre identité, en la mettant en avant, en la l'exaltant. Et puis, il y a d'autres moments où on est un homme parmi d'autres, où on lit ce que lisent les autres, où on entend la musique qu'écoutent les autres, où on se régale des différences. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, un double jeu. Pas un jeu, hein, c'est pas un jeu, c'est un double jeu dont nous sommes...
Chaque personne.
Chaque personne, oui, est véritablement composée de cette double identité. Et tantôt, il se replie sur une identité donnée, catégorielle, et il l'exalte au plus haut point. Et ça, c'est par exemple à des moments rituels ou à des moments des cycles de la vie difficiles, etc. Et à d'autres moments, au contraire, il se comporte comme un individu plus ouvert à l'autre, plus cosmopolite. Alors je crois que, bon, il faut valoriser ce deuxième jeu plutôt que le premier. Bon, ça, c'est une première chose. Et peut-être prendre conscience du fait que l'on n'est constitué par ce double jeu, et non pas par un seul jeu, mais donc valoriser ce deuxième jeu, ou ce premier jeu, si on veut le mettre en première position. Et puis, alors, la deuxième chose, je crois surtout, à notre petite échelle, ce que nous pouvons faire, parce que nous ne sommes pas M. Trump ou M. Poutine, hein, c'est faire en sorte qu'on remette les différences à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on considère toutes ces histoires de jambon, de fichu, de poils, que sais-je, d'images, comme des traditions, et non pas comme des ordres divins. Alors des traditions, vis-à-vis de traditions, ben, aussi bien celui qui regarde la tradition de l'autre peut dire ben, « oui, c'est une tradition ben. ». Ou bien soi-même, si on sait que ce que l'on porte sur la tête ou ce que l'on mange, c'est de l'ordre de la tradition, ben, on peut s'en séparer sans trop de difficultés. Et donc, je crois que... Et ce que j'ai essayé de montrer, en définitive, c'est que ces comportements qui semblent véritablement fondamentaux, ont en fait été créés pour se différencier de l'autre, et non pas par ordre divin. Parce que je vous mets au défi de trouver dans le Coran, par exemple, quelque chose qui nous dise que les femmes doivent porter un voile sur la tête. Bon, Jacques Berck le disait déjà, ça n'est pas... Bon, il est vrai qu'à l'époque, sans doute, toutes les femmes portaient un voile sur la tête, donc c'était peut-être pas la peine de le signaler. Mais donc, ce sont des traditions plutôt que des ordres divins. Et je crois que ça, c'est important de remettre les différences à leur place, comme moyen de signifier par rapport aux autres ce que l'on est, différent, mais pas plus que ça. Donc il y a toujours eu des traditions qui opposaient telle ou telle population, et donc il faut qu'il y ait un petit peu de différence pour que le monde fonctionne, parce que si nous étions tous pareils, ben mon Dieu, les choses ne seraient plus similaires, on n'aurait plus une conscience de soi suffisante. Mais... des traditions, pas des ordres divins, pas des dogmes. Et donc, je crois qu'il faut aussi éviter d'afficher ostentatoirement ces différences. Je pense au voile intégral, par exemple. Mm-hmm. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'afficher ostentatoirement le voile intégral, alors qu'on sait que ça peut choquer d'autres, et que cette tradition dans quelques coins... d'Arabie Saoudite ou bien d'Afghanistan, n'est pas quelque chose qui définit une communauté dans son ensemble par rapport aux autres, et donc éviter cet affichage ostentatoire. Je crois que ça aussi, d'un côté comme de l'autre, d'un côté, hein, quand je parle d'un côté, c'est du côté occidental, comme du côté chrétien et athée, comme du côté religieux, musulmans ou juifs, je crois que ce souci de ne pas afficher ostentatoirement sa différence, ce qui veut dire être dénudé si on est du côté occidental ou voile intégral si on est du côté musulman, je ne crois pas que ce soit des attitudes qui permettent un meilleur dialogue et une meilleure compréhension entre les uns et les autres.
Voilà des paroles de paix. En fait, ce que vous préconisez, c'est l'anti-cascade.
C'est l'anti-cascade.
C'est-à-dire oui. Que chacun, à son niveau, retrouve la réalité des choses et des choses qui sont finalement des habitudes,
oui.
Voilà, des
oui.
traditions,
oui. Oui.
Et que petit à petit, ben, ça devienne quelque chose qui est accepté par une société plus large et qui permette peut-être une entente, plus, en tout cas une cohabitation plus sereine.
Plus sereine. Tout à fait.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette fin très pacifique et on peut souhaiter que c'est comme ça que les choses vont évoluer. Je voulais rappeler d'abord que votre livre, donc Christian Bromberger, La Méditerranée entre Amoréennes, c'est aux éditions de l'Aube. Voilà, donc je vous conseille vivement de l'acheter puis de le lire parce que c'est très intéressant. Je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent nous écouter en direct le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h, les premières et troisièmes semaines de chaque mois sur 88.1, et les deuxièmes et quatrièmes semaines en rediffusion sur radiozinzine.org. Et donc, je rappelle également que vous pouvez, sur radiozinzinex.org, aller réécouter ou télécharger nos émissions. Donc, émissions, dans le émission, vous cliquez sur émission, Mare Nostrum, et vous pouvez donc... récupérer l'intégralité des émissions. La prochaine émission portera sur mai-juin 68, bien sûr, on ne peut pas y échapper. Paris-Marseille, mai-juin 68. Au revoir.
Oh yeah.